Nous allons donc immédiatement commencer la première table ronde. Donc j'invite Luigi Migliorini, le professeur Wang et Alexandra de Hopscheffer pour traiter de cela. Vous remarquerez que je n'ai pas invité d'experts américains parce que je ne savais pas qui inviter. Je ne savais pas quelle ligne il fallait suivre. Mais je pense qu'Alexandra va... comme elle est chargée de produire tous les jours de la relation transatlantique, hein, c'est une petite manufacture, le German Marshall Fund, elle fait du transatlantique, même par tempête. Donc on est dans cette situation et j'ai pensé que c'était elle qui pouvait le mieux se substituer à l'ensemble des écoles de politique extérieure des États-Unis. Je donne immédiatement la parole à Luigi Migliorini, dont je signale que la version française de son œuvre sur Metternich, l'inventeur du Congrès de Vienne, sera traduit bientôt et publié aux éditions du CNRS. Donc je vous invite à le lire, Luigi. Vous avez la parole pour 12 à 15 minutes maximum.
Merci bien. Je vous remercie. Je remercie bien évidemment la maison qui aujourd'hui nous accueille. Je suis en plus un historien, donc je ne serai pas exactement à ma place. C'est seulement l'amitié de Michel Fauché qui me fait être ici, et un tout petit peu le livre sur Metternich que j'ai écrit et que, comme Michel, avec gentillesse, a dit il y a un instant, va paraître au CNRS, aux éditions du CNRS, je pense début du, de 2018. En écoutant Michel Fauché, j'ai retenu un mot qui me permet de commencer par là. Le problème de la qualification de l'ordre international comme une sorte de prémisse de tous les discours qu'on peut faire. Ça m'a fait venir... c'est ce que je trouvais, je vais très rapidement, lorsque j'ai travaillé sur Napoléon. Le problème de Napoléon, je le dis très rapidement, se pose toujours, à mon avis, pas sur le thème de son ambition, les fautes, les erreurs, on aurait pu éviter tout ça. Non, le problème était qu'il manquait dans les acteurs de la période napoléonienne un consensus assez mûri sur l'ordre international, c'est-à-dire où on pouvait... Il fallait faire place à la France napoléonienne, à la France qui avait perdu le partage de la Pologne, qui avait perdu la guerre avec l'Angleterre dans la guerre de Sept Ans. Donc c'était une puissance qui n'était plus la puissance du début du XVIIIe, Louis XIV, mais quand même c'était la France qui avait des prétentions tout à fait justifiées dans l'échiquier européen et même plus. Il fallait lui donner de la place, mais quelle place ? Jusqu'à quel point ? Le point, on n'arrivait pas à le trouver. Et donc, on risquait toujours, pour le manque d'une possibilité de qualification, je dis maintenant d'équilibre, une notion consensuelle d'où on aurait pu s'arrêter tous, continuer à se combattre, à se battre. La guerre continue jusqu'au moment où quelqu'un perd, il est évidemment vaincu, et donc on peut commencer à parler de qu'est-ce qu'il est l'ordre international, mais après avoir bien établi une hiérarchie entre les vainqueurs et les vaincus. Et donc, si je dois dire, en retournant sur l'actualité, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette possibilité de qualification. Je rejoins tout de suite le mot de Michel Fauché, mais je suis aussi très préoccupé en historien parce que l'histoire nous apprend, si l'histoire apprend quelque chose à quelqu'un, qu'en général, pour le retrouver, ce consensus, il faut se battre. Il faut d'abord voir qui est le plus fort ou le plus faible pour commencer à discuter la chose. Aujourd'hui, on n'a pas l'idée de la vraie force des acteurs qui sont en place, je parle 2017, peut-être aussi 2018, et donc le problème de la guerre, le problème d'une confrontation militaire se pose de plus en plus. Dès qu'on a établi tout ça, c'est-à-dire dès qu'on est dans la condition Vienne ou Versailles 100 ans après, on peut imaginer de se remettre en marche. Vienne le fait... En marche, oui. De se remettre en marche. Voilà, c'est très bien dit aujourd'hui, vous avez raison. Donc, alors, on a toujours fait une comparaison favorable à Vienne et défavorable à Versailles, parce qu'on a dit, et c'est très juste, que vis-à-vis de deux guerres qui ont le même problème, c'est-à-dire il faut d'abord se confronter militairement pour commencer à parler d'un équilibre, et donc le plus on a la crainte d'une hégémonie, le plus on manque d'équilibre, le plus il y a les possibilités d'hégémonie qui s'avancent dans un conflit militaire, mais viennent, commencent à discuter à partir d'une idée, une paix sans vainqueur et sans vaincu. Versailles, au contraire, comme on le sait, c'est la paix des vainqueurs contre les vaincus. C'est tout à fait exact comme ça. Oui, un peu, oui. La particularité, l'originalité de Vienne, ce qu'on a fait de Jean Metternich, mais les autres aussi, Kasserig et tous les autres, partent du principe qu'il faut trouver un équilibre. On est parti d'un danger d'hégémonie, Napoléon, on arrive à une possibilité d'équilibre. Et on y travaille. On y travaille, je vais très rapidement là aussi, sur deux points. La statique d'un équilibre et la dynamique d'un équilibre, qui sont tout à fait pas la même chose. Au contraire, la statique est plus facile, la dynamique est très compliquée. La statique de Vienne, en plus, n'est pas, moi j'ai appelé mon intervention, l'invention de Metternich. Sur le côté statique, c'est plutôt la reprise d'un thème qui avait déjà été abordé, par exemple, par Montesquieu, c'est-à-dire l'idée d'établir un équilibre à partir de puissances du premier niveau, les puissances du premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre. Et il y a là une pyramide. La pyramide, ça veut dire que les puissances du premier ordre ont un lien très étroit avec les puissances du deuxième, qui ont un lien aussi étroit avec les puissances du troisième. C'est un ordre régional. Non, à l'époque, c'était un ordre dynastique. On ne parle pas de zone d'influence, on parle à l'époque de Montesquieu. Déjà, à Vienne, on peut se rapprocher à ce que, là aussi, dans son introduction, Michel Fauché vient de nous dire à propos de l'ordre régional, à une idée très nuancée, pas très exacte, mais de zone d'influence. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé à travers la Révolution et l'époque napoléonienne, conduit plutôt à des liens entre premier, deuxième et troisième ordre qui sont d'origine régionale, si je peux dire géopolitique peut-être, plutôt que dynastique, comme il était dans le cadre esquissé par Montesquieu. Ça veut dire que, et ça à mon avis c'est très important, les puissances du premier ordre ont le poids de gérer l'équilibre dans le sens plus vaste du terme, de le déterminer, mais ils ne sont pas seuls. Dans un certain sens, elles sont deux puissances qui ont la possibilité d'influencer, de gérer la politique extérieure des puissances de deuxième et de troisième rang, mais en même temps, elles sont aussi les représentantes des intérêts des puissances du deuxième et du troisième ordre. Donc, dans le concert européen, il faut voir d'abord, si vous voulez, un conseil d'administration, c'est-à-dire quelque chose qui gère, qui conduit la politique, mais de l'autre côté aussi, une sorte de petite chambre représentative des intérêts de l'équilibre même. Et ça donne des problèmes lorsque de la statique, on va à la dynamique, parce qu'on ne peut pas imaginer seulement une direction du concert vers les autres, vers les systèmes régionaux, si on veut prendre les mots que nous suggère Michel. Il faut aussi voir qu'est-ce que le système rebondit sur les puissances, qu'elles sont, elles sont aussi des représentants. Et il ne faut pas rater l'interprétation, la traduction dans le concert des suggestions, des sollicitations qui viennent de la base, si je peux utiliser ce mot. En même temps, la statique est très importante non seulement pour les présences, c'est-à-dire pour à quelle table on s'assit, premier, deuxième, troisième, une table générale très rare, mais surtout sur les absences. Le concert européen de Vienne se fait à partir des présences établies, donc la reconnaissance, par exemple, de la France comme une puissance de premier ordre, même si elle a perdu les guerres napoléoniennes, et c'est le plus grand résultat, en réalité. C'est le plus grand résultat, non seulement, comme on le dit très facilement, parce que quelqu'un qui a perdu va s'asseoir à la table des vainqueurs. C'est pas seulement ça. Et c'est pas seulement l'habileté très bien connue et reconnue du prince de Talleyrand. Mais c'est plutôt le fait que la France avait toujours été une grande puissance, pendant le XVIIe et le XVIIIe siècle. Le problème était qu'on avait essayé, ou on était arrivé, à la réduire. Il ne faut jamais oublier que soit les guerres de la Révolution, mais surtout les guerres napoléoniennes, sont une sorte de deuxième tour, une revanche de ce que la France, je l'ai dit, avait subi sous un certain point de vue, soit dans la guerre de Sept Ans, soit surtout dans les partages de la Pologne. Donc il y avait un déséquilibre vis-à-vis du rôle de la France que le Congrès de Vienne remet en place. Mais ce n'est pas donc seulement le fait que la France a été réacquise à la notion de puissance de premier ordre, c'est surtout les absences. Les absences sont des absences à peu près traditionnelles dans le cadre de l'équilibre européen, c'est-à-dire la péninsule italienne, l'espace allemand, et le troisième, qui est une petite nouveauté qui doit sans doute au passé plus récent, cette possibilité, l'Empire ottoman. Donc, un équilibre ne se fait pas seulement en pensant, je pense toujours dans une idée histoire-actualité, bien sûr, sinon l'historien aujourd'hui serait vraiment seulement comment dire un petit entretien au départ de réflexion beaucoup plus intéressante et prégnante. Je pense qu'il faut toujours penser qu'un équilibre se fait non seulement avec des présences mais avec des absences consensuelles. On était tous d'accord jusqu'à un certain moment, après j'arrive à la dynamique, que l'Italie devait rester telle qu'elle était. En réalité, elle avait été déjà remaniée vis-à-vis du 18e, mais pas plus que ça. Que l'espace seulement, lui aussi, avait été remanié pendant la Révolution, les guerres, mais ça suffisait. Il fallait aller plus au loin. L'Empire ottoman, c'est vraiment l'absence la plus évidente, il faut le laisser de côté. Et vous savez que c'est autour de l'Empire ottoman, la question d'Orient, qui se joue tout le remaniement des équilibres européens et pas seulement européens. Donc, parce que sur l'Italie et sur l'Allemagne, on trouve à Vienne une certaine solution, c'est-à-dire qu'on en discute et on trouve une solution qui n'est pas tout à fait consensuelle. On va penser aux affrontements autour de la Saxe, par exemple, pendant le congrès de Vienne, qui arrivent jusqu'à remettre en cause l'alliance anti-napoléonienne qui s'était déterminée. Mais sur l'Empire ottoman, on n'a pas une discussion et une solution. On a tout simplement un silence. Donc là aussi, c'est pour aujourd'hui. Il faut trouver la possibilité non seulement de discuter de quoi faire, mais aussi de discuter de quoi ne pas faire. Mais il faut être d'accord sur quoi ne pas faire, c'est-à-dire les limites où une certaine géographie, géopolitique, un certain réseau régional, pour reprendre là aussi la suggestion de Michel Fouché, il faut ne pas les toucher. Mais si on ne peut pas les toucher, il faut être tous d'accord qu'on ne peut pas les toucher. Si on commence à ne pas être... Il faut y discuter. On ne peut pas seulement écarter la discussion et le silence. L'Empire ottoman, c'est la démonstration, la question d'Orient, c'est toujours une question qui est là. Parce que Vienne est la statique de l'équilibre international, de l'ordre international, du Conseil européen, mais elle se pose aussi un problème de dynamique. Encore un mot sur la statique. La statique a aussi un côté idéologique à Vienne, qui s'appelle la Grande Alliance, la Sainte Alliance, entre trois de cinq qui font l'alliance politique. Donc vous avez déjà, vous allez un peu... Et vous savez bien qu'il y a un clivage important. Le fait qu'il y a une alliance idéologique qui se superpose d'une façon pas tout à fait nette sur l'alliance politique fait que la Grande-Bretagne, de la fin de Vienne, se déclare tout à fait libre parce qu'elle a une idéologie, je le dis d'une façon un peu rapide. Et la France, après 1830, va rallier sous ce côté et sur ce côté. Donc, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, et qui s'est posée à Vienne, qui n'a pas été résolue à Vienne, mais qui vient à aborder dans le sens qui, aux yeux de Metternich, aurait été beaucoup mieux si la paix de Vienne avait aussi un côté idéologique franchement déclaré. Elle aurait été, aux yeux de Metternich, beaucoup plus solide. Donc, un équilibre doit avoir une idéologie ou doit être seulement une politique. Par exemple, la guerre froide a eu un équilibre qui n'était pas idéologique, c'était plutôt sur le consensus que les idéologies ne se confrontaient pas. Aujourd'hui, qu'on n'a pas des idéologies, il faut imaginer une idéologie qui soutient, qui garantit en même temps, modèle, vous me comprenez bien, Sainte-Alliance, ou non. La démocratie, par exemple, hein, qui est un thème aujourd'hui, et une démocratie qui a aussi des outils, ce n'est pas seulement un mot, qui a aussi des outils, qui sont les parlements, la constitution, tout ça. C'est quelque chose qu'il doit soutenir, qui aide la construction de l'équilibre ou qui l'entrave aujourd'hui. À l'époque, l'idée d'une restauration de principes, qui n'était pas seulement une restauration en arrière, c'était plutôt le fait que certains principes devaient continuer dans le 19e comme ils avaient continué au 18e, n'était pas consensuel. Et ça a été vraiment... Là, il n'y a pas Vienne, ce n'est pas une paix de vainqueurs et de vaincus, mais il y a des vainqueurs, dans le sens général du terme, c'est-à-dire les idéologies du 18e qui passent au 19e, il y a des vaincus qui deviennent des vainqueurs dans le courant du 19e siècle. Et c'est là qui commence la dynamique. Et j'arrive là à parler. La dynamique. Qu'est-ce qu'il arrive si, dans l'ordre établi, quelque chose va changer ? Le principe d'intervention qui s'établit dans les concerts européens et qui dure 4 ans, 5 ans, de 1817 jusqu'à 1822, déjà au congrès de Vérone, c'est la dernière fois où on peut imaginer, c'est pour l'Espagne, comme peut-être quelqu'un d'entre vous bien se rappelle, sur l'intervention de la France en Espagne, qui va chuter définitivement un ordre qui avait déjà beaucoup frissonné, par exemple, à l'époque de l'intervention à Naples. Je suis napolitain, comme peut-être vous le savez, et il ne faut jamais oublier que pour la révolution de Naples, arrive à Naples, dans ma ville, 80 000 soldats autrichiens. Donc l'intervention, ce n'est pas seulement qu'on va envoyer quelqu'un voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, non, il y a 86, c'est une intervention à la taille de nos interventions d'aujourd'hui. Et parce que le principe d'intervention que Metternich prône, c'est un principe qui est la dynamique de la statique. C'est-à-dire, si quelque chose va changer, il faut que le concert établit la possibilité de remettre les choses à sa place et à chaque fois va individuer l'Autriche ou la France bourbonienne ou d'autres qui vont faire le sale devoir. Et souvent c'est l'Autriche, mais en principe ce n'est pas évidemment qu'il doit être l'Autriche. La Russie le fera avec la Pologne en 1830, avec la Hongrie en 1848-49, l'Autriche le fait à Naples, et la Russie essaye de le faire en Grèce aussi en 1820-21. Un principe d'intervention s'avère très rapidement comme la négation d'un principe d'équilibre. C'est ça les problèmes de l'après-Vienne. C'est ça que peut-être que même Kissinger l'a vu lorsqu'il a écrit son fameux livre sur la restauration. Parce qu'un principe d'intervention fait basculer les choses. Lorsque vous envoyez, je le disais dans un instant, 80 000 personnes à Naples, vous basculez. Parce que les Napolitaines, même le roi de Bourbon qui a été rétabli sur son trône, il ne peut pas supporter, sans de conséquences politiques intérieures, la présence de 80 000 Autrichiens dans sa capitale. Ça donne des difficultés qui, plutôt que garantir l'ordre, commencent à les saper. Mais quelle est la possibilité de résoudre tout ça d'une façon qui n'est pas militaire, qui n'est pas avec le principe d'intervention? On ne le savait pas à Vienne et j'ai l'impression qu'on ne le connaît pas encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque il y a des difficultés dans le maintien, qui n'est pas l'exception, mais qui est la règle? Parce que, comme Montesquieu aussi le savait très bien, lorsque tu as établi qu'il y a 5 puissances du premier ordre, 10 du deuxième et 20 du troisième, tu ne peux pas empêcher qu'il y ait un glissement dans cette classification. C'est fatal, c'est l'histoire. Donc il y aura quelqu'un qui s'affaiblit dans le premier et qui va un peu reculer. Pensez au cas de l'Espagne pendant tout l'âge de la modernité. Et au contraire, la Russie qui commence, par exemple, avec son tsar Pierre, à grimper dans l'échelle du classement international. Donc c'est fatal, mais on ne sait jamais comment intervenir sans intervenir militairement. Mais lorsqu'on intervient militairement, peut-être on a un effet de tranquillité immédiate, mais on se prépare à des bouleversements d'après qui sont des bouleversements donnés par le feu même de l'intervention. Donc la dynamique entrave la statique. C'est ça le problème de l'ordre et de l'équilibre international, que la dynamique, qui n'est pas l'exception, mais qui est la règle, entrave l'ordre international. Comment le faire élastique sans le faire casser? Deuxième problème, et je termine parce que peut-être j'ai pris un peu trop de temps, les changements ne se déterminent seulement sur la périphérie du cancer, ou si vous voulez, dans les états les plus petits, et les grands qui restent stables. Là, il y aurait le problème que j'ai évoqué de l'intervention, c'est un problème important, mais il serait quand même un problème négligeable si on ne constatait pas que le changement se produise à l'intérieur même des grandes puissances. C'est-à-dire que Pour ma période, le cas bien évident, c'est la France. La France des Bourbons n'est pas la France des Orléans. Et lorsque la France devient orléaniste, la France commence à s'approcher à l'Angleterre. Et les affrontements qui avaient déterminé une crise très importante entre la France et la Grande-Bretagne depuis la moitié du XVIIIe jusqu'aux années 30, il ne se fasse pas, on aura un 19e siècle qui est aussi autour d'une confrontation France-Grande-Bretagne, mais qui de plus en plus donne l'idée qu'on arrive là où on est arrivé au 20e, c'est-à-dire foncièrement, les Anglais et les Français peuvent ne pas toujours être d'accord, ne pas toujours être sympathiques les uns avec les autres, ça arrive, et les Italiens sont sourient souvent de tout ça. Oui, on aime bien vous voir parfois comme ça. L'année dernière, ou il y a 2 ans, dans le bus derrière la pub des bus de Paris, disait, il y avait des pubs pour du tourisme à Londres. Et il disait comme ça, allez à Londres, allez là, lorsqu'ils sont ici, chez nous. Alors, je termine. Les changements se détermine aussi à l'intérieur de grandes puissances. Et là, c'est la chose la plus compliquée. Nous avons le cas très compliqué, bien évidemment, de la Russie d'aujourd'hui. On a aujourd'hui des États-Unis. Là aussi, c'est Michel Fouché qui nous a déjà introduit le problème. Qu'est-ce que c'est la politique de la présidence Trump? C'est une continuité, mais quelle continuité? C'est la continuité avec Obama. Non, bien sûr, c'est une continuité avec, je ne sais pas, le premier Roosevelt, celui du bâton, et c'est possible, je ne sais pas, ce n'est pas mon domaine, ou en tout cas c'est mon domaine, mais lorsque je ne fais pas strictement l'historien, mais il y a aussi là quelque chose qui pourrait être un remaniement, pas seulement de la politique extérieure, c'est de la politique intérieure. Le problème, lorsque les grandes puissances commencent à basculer, elles ne basculent pas seulement pour des raisons de relations extérieures, elles sont pour des problèmes des intérêts intérieurs. La Chine aussi, sous un certain point de vue, peut se commenter de cette façon. Et là, c'est encore plus compliqué, parce que la solution qu'on évoque peut-être aujourd'hui, et je m'arrête, c'est de donner à l'ordre régional son autonomie vis-à-vis que les difficultés des grandes puissances, à son intérieur peut-être, encore plus que dans la gestion de l'extérieur, sont si importantes qu'on ne peut pas y arriver. C'est comme si on aurait dit en 1815, que l'Italie s'arrange entre elle et nous, nous restons à la fenêtre à regarder. À l'époque, ce n'est pas arrivé ainsi, et en Allemagne même, lorsque, après 1948, ça commence la marche vers l'unification allemande, ce n'est pas passé ainsi. Aujourd'hui, c'est possible. L'historien reste avec ses doutes, mais puisqu'il s'occupe, vous avez compris, pas exactement du passé, et il regarde seulement l'avenir, peut vous écouter pendant cette journée avec beaucoup d'intérêt. Merci.
Merci beaucoup, Luigi. C'est le cadre est posé. Ce qui est frappant, c'est l'actualité de la situation d'il y a deux siècles. Ça a été le coup de génie des stratèges des États-Unis. Très tôt, dès 1942, autour du président Roosevelt, un géopoliticien comme Speckmann dit « Il faut absolument réintégrer l'Allemagne dans le jeu européen après la défaite de l'Allemagne. » C'est la France de 1815. Et ça, c'est une décision qui est pensée aux États-Unis. Il y avait à cette époque-là une clairvoyance extraordinaire qui est moins évidente aujourd'hui. Je crois que ça nous apprend énormément, cette grille. Donc, la transition avec le professeur Wang qui va présenter le nouvel ordre international vu de Pékin. Le professeur Wang Siji est président de l'Institut d'études internationales et stratégiques de l'Université de Pékin et édite une revue, une grande revue de référence que je vous invite à lire. Compte tenu de la qualité du débat stratégique, en réalité, en Chine, qui est complètement sous-estimé. Merci, professeur, de votre présence.
Thank you. Thank you very much. And I have to, I should express my appreciation to the College of World Studies for inviting me. Having listened to a historian discussion of the order, I cannot help but think that China is a newcomer. If we look at history, China didn't become a full-fledged international player until more than 30 years ago, 40 years ago, because China was a victim after it was invaded by Great Britain and France and then United States and other countries. And the victim mentality remains very strong in China. And China became a member of the international community. If you are talking about the United Nations, China became a member of the United Nations in 1972. And that is the People's Republic of China. Before that, it was a Taiwan Republic of China. And then China joined the international community as a full-fledged player after 1978, when China was engaged in reform and opening. And so the victim mentality lingers on even today. And many people, when they talk about international society or international order, the first thing they remember is that China suffered a great deal when Western powers came to Asia. And so the official doctrine remained very strongly anti-American, anti-Western before the 1990s. It was the slogan at the time before the 1990s that China should try to establish a new international order to abolish the old order. What was the old order? The imperial order when China was a victim. And the official line gradually changed when China felt itself more of a beneficiary of the existing order. And because China rose up without undermining the existing order China was in. So in the late 1990s and after, the official line changed into something like, no, we are beneficiary of the existing international order, but we have our complaints. We are not totally satisfied with that. So as far as I remember, this is the slogan becomes that China wants to improve the international order by participating fully in the international organizations and so on. And China should try to push the international order to a fairer and more reasonable direction. But what is the more reasonable and fairer decision, the direction China, the Chinese don't say. And I mean, we have debates about that. That is my first point. Then we talk about regional order. What is the region China is in? That is also debatable. Because we say we are an Eastern civilization. Many Chinese believe that China represents the East, but in fact we do not. What is the East? Or you have the Near East, Middle East, and Far East. We belong to the Far East, but even in the Far East, there are Korea, Japan, India, and others. So this is a notion imposed on China, the notion of Eastern civilization or Oriental civilization. And we say we are an Asian power, but we also talk about the Asia-Pacific region that includes the United States, and sometimes it includes even Chile and other countries in Latin America, because we have APEC as a regional forum. But basically, when we talk about the region, we should include the United States, because the United States says it is a Pacific power. So when we talk about the Pacific Asia or Asia-Pacific, and sometimes Europeans are referring to the Indian Pacific, India-Pacific region, and that is not very much welcomed in China. So this is another thing that is when we talk about regional order, we don't know what the region is. And India is now in the region. But if India is in the region of the Asia Pacific, why not Pakistan or Bangladesh? Give us a reason. And so when we talk about East Asia, we usually talk about ASEAN plus three, that is Japan, South Korea, and China. But where is North Korea? And then we add Russia, Australia, New Zealand, the United States, and India into the East Asia Summit. That is 18 of them. But still, North Korea is not in, and Mongolia is not in. And this is a big challenge to China when we talk about global order or regional order. But globally, another debate is going on in China. That is whether we are already number two. Number two in the world? If the United States is number one, China should be number two, because we are the number two economic power. But then my question to my colleagues is, who is number three? Japan or Russia? Where is Europe? So I'm one person who is against the notion of number two, or against the notion of G2, the United States and China. When you say G2, other countries are not happy. So I think China still prefers to see a multipolar world. When I read Ambassador Voucher's very good paper on how to achieve peace, he said peace through balance of power, or peace through empire, and peace through rule of law. And I think the Chinese notion today is that we are going to maintain peace through balance of power or multipolar world, because most people in China know that we are not yet able to lead the world and the whole world. We are not even able to lead Asia or the Asia Pacific region. So we can only join others in leading the world, in providing peace and stability in the region and in other regions. And when we talk about international order, we refer to it as if the international society is composed of 190 plus nation states or national states or sovereign states. And China says it is in favor of democracy. But democracy is not the democracy in the Western sense. Democracy is China is in favor of democracy in the international society, meaning China is one of the developing countries. That is the majority of the international society. And democratization of world politics means one country, one vote. And the Western countries are a small minority in the international system of sovereign states. But China has not specified what the notion of democracy of international relations is. It's simply a principle. Because most Chinese know that the world is still very much influenced by the Western world. If we have the division between the West and the West is still very much influential and dominant, and the rest is not united. The West, you have a lot of agreements, treaties, alliances, and so on, like NATO, like US-Japan strategic alliance, US military alliances in the Asia-Pacific region. And China doesn't have only one military ally. If theoretically the only military ally of China is North Korea, but we don't like to refer to that. So I think China now is in favor of international order, because the opposite is disorder. China reaching out to every corner of the world. You see Chinese tourists and Chinese businesses everywhere in the world. So any disorder in a country or in a region will not serve China's interest. If we ask a question between disorder and order, we are in favor of order. But what kind of order we are in favor? That is multipolar, and China is part of that world order. And China abides by most of the rules of the game. The rules include the non-proliferation, free trade or fair trade, and the global governance, like climate change, and intellectual property rights, or market economy, and so on and so forth. So, in the internet, in the economic dimension of the international order, China is somewhat more comfortable. The only complaint is that China should have more voting power in IMF, in World Bank, in WTO, in other international financial and economic organizations. But basically, China doesn't really want to undermine the international economic order, because China has gained a great deal from that. And China may have more problems with the United States over trade regimes and financial things, but China is moving ahead. And in the international order that is related to security affairs, China abides by non-proliferation. China is against nuclearization of North Korea or of Iran or of other countries. The problem there is that China is not comfortable with US-led strategic alliances in East Asia only. And we say very little about US military activities or alliances in the Arab world, with Europe, NATO. It doesn't concern China that much, but China is very much concerned about US-led military alliances in East Asia. But I think the biggest problem China is faced with is the political dimension of the global order or the international order. That is, the Western value system is still very much influential. You talk about democracy, human rights, rule of law, market economy, and China feels that it is not in a very good position to talk about all these things. What is the value system China is advocating? We're only advocating socialism with Chinese characteristics. We don't advocate socialism in France or in Germany, in other countries, in the United States. We don't say anything about these countries. We only talk about China. China should be, in that sense, China is very defensive. China is not, you know, the ultimate goal of China is to become a developed country. But then you will see a developed country, a very economic, very advanced country, that will not be democracy. And if that is the case, China is a very special case. China achieved modernization without going democracy. But that is my question. Will that become the case? And what if that is the case, then we'll have more confrontation and more conflict. But it is also depending on China's own people. The Chinese people, they will decide what kind of country will become. That is related to the very value system we talk about. Thank you.
Merci. Merci. Merci pour la clarté cartésienne de cet exposé et l'ouverture que vous indiquez. Et comme Luigi Migliorini, le lien entre l'interne et l'externe, hein, c'est quelque chose sur lequel on ne travaille pas suffisamment dans les enceintes, je dirais, diplomatiques officielles. Alors maintenant, il revient à Alexandra de Hopschaffer, qui est la directrice, l'active directrice, j'en témoigne, du German Marshall Fund of the United States, qui est à l'origine d'une initiative allemande, précisément. C'est l'exemple même de la conscience que l'Allemagne a été réintégrée dans le jeu. Je crois que vous incarnez ça, German Marshall Fund. C'est très exactement ça. On est au cœur du sujet. Va essayer de répondre à la question suivante. Donc on est le 16 juin 2017, on est à Washington. La notion d'ordre international a-t-elle encore un sens?
Donc on a 4 heures pour ça, c'est ça, hein, c'est l'épreuve du bac.
10 minutes.
Non, je sais. Non, merci, merci beaucoup Michel, et merci beaucoup à vous tous d'être là aujourd'hui. Donc effectivement, le German Marshall Fund, juste pour un petit point historique, a été créé en fait en 1973. Donc on est un think tank transatlantique, et figurez-vous que c'est Willy Brandt, à l'époque chancelier allemand, qui s'est rendu à l'université de Harvard et qui a fait un discours sur l'importance du lien transatlantique et qui a annoncé que l'Allemagne allait rendre les résidus de l'argent du plan Marshall donné par les États-Unis à l'Allemagne, qui n'avait pas été entièrement utilisé, pour que les États-Unis créent une fondation permanente, donc le German Marshall Fund of the United States, avec comme mission principale de continuer à renforcer le dialogue et la coopération transatlantique sur tous les enjeux qui intéressent et qui représentent un défi pour les États-Unis et l'Europe. Donc effectivement, on est au cœur du sujet. Donc là, la question, effectivement, est-ce que l'ordre international a encore un sens? J'inverserai dans un deuxième temps la question en disant comment peut-on empêcher ou plutôt gérer la trumpisation du monde et des équilibres régionaux, parce qu'on voit que c'est en train de se développer sous nos yeux. Et puis enfin, j'essaierai d'évoquer quelques idées de comment nous, Européens, on peut réagir, se positionner par rapport à cette nouvelle administration américaine et surtout à cette vision alternative, puisque c'était la mode de l'ordre international. Alors, est-ce que l'ordre international a encore un sens aujourd'hui pour les États-Unis? Ce que je trouve intéressant, c'est de rentrer tout de suite dans le concret. Je pense que cette question trouve sa réponse dans souvent des décisions importantes qui sont prises en matière de politique étrangère. Souvenez-vous de la promenade de 45 minutes qu'a faite le président Barack Obama avec son chef de cabinet au moment où il fallait décider en 2013 d'intervenir ou pas en Syrie. Il a suffi qu'il en discute avec son chef de cabinet, Dennis McDonough, pour qu'il revienne sur sa posture de départ, qui était de dire qu'il fallait intervenir si Bachar al-Assad utilisait des armes de destruction massive contre sa population, et il a fait volte-face. Et cette décision a véritablement été un marqueur de sa politique étrangère, de sa diplomatie, mais aussi un marqueur de la façon dont Obama concevait la place des États-Unis, le rôle des États-Unis dans le monde, et sa propre conception de l'ordre international. Si je transpose cette idée-là en 2017, bien sûr, je prendrai l'exemple de l'accord climat, la décision de Trump de retirer les États-Unis de l'accord climat. Là aussi, ce n'est pas seulement une décision par rapport à l'environnement, le fait qu'il n'y croit pas trop, etc., ou à l'influence de Steve Bannon, son chef en stratégie à la Maison-Blanche, mais c'est aussi une décision lourde de conséquences pour le leadership américain dans le monde. Et puis ça annonce aussi un nouvel ordre mondial. C'est ça qui a provoqué aussi, je dirais, ce tsunami de réactions et de contre-propositions et de réactions en Europe et partout dans le monde, et y compris en Chine. Ça a été véritablement la première mise en œuvre concrète du America First, ou ce que Charlie Kupchan a appelé dans un article du Foreign Policy America Alone. Il le résume ainsi, il dit: on the horizon is not a world without the West, but a West without the United States. Et ça résume un peu, je dirais, les conséquences qu'a eu cette décision sur l'accord climat. Un autre article qui est extrêmement éclairant sur la manière dont Trump envisage l'ordre international ou pas, c'est celui qui a été publié quelques jours après la visite de Trump à Bruxelles, à l'OTAN, avec ses alliés européens. Un article écrit par son conseiller à la sécurité nationale, général McMaster, et celui qui dirige le conseil économique à la Maison-Blanche, Gary Cohn, dans le Wall Street Journal, et qui ont dit que je cite: le président américain s'est rendu à l'étranger avec une vision claire du monde, considéré non pas comme une communauté globale, mais comme une arène où acteurs étatiques, non étatiques et acteurs du business sont en compétition. Donc, en résumé, c'était en gros: ne demandez pas aux États-Unis ce que les États-Unis peuvent faire pour le reste du monde. Demandez-vous ce que le monde peut faire pour les États-Unis. En d'autres termes, ne vous tournez pas vers les États-Unis pour la lutte contre le terrorisme s'il n'y a pas une menace directe aux États-Unis. Ne vous attendez pas à ce que les États-Unis défendent les valeurs, liberté, démocratie, etc., sauf s'il existe une menace directe au fameux American Way of Life. Trump et son équipe très proche, Bannon, tous ceux qui font partie de l'école de pensée Bannon à la Maison-Blanche, maîtrisent profondément la notion de l'ordre, puisqu'on parle de l'ordre aujourd'hui. On le voit très bien, il le nie à la fois en interne et à l'international. Il refuse de distinguer la notion d'allié et la notion d'adversaire. D'ailleurs, il met souvent au même niveau Merkel et Poutine, et il le fait délibérément. Effectivement, Trump nous donne l'occasion de repenser tout simplement les relations internationales et l'ordre international tel qu'il a toujours existé. Et là aussi, dans l'article que j'ai cité de McMaster et Gary Cohn, ils considèrent finalement que la notion même de l'ordre, ou ce qu'on appelle l'ordre libéral international, a finalement jamais existé. C'est de la pure fiction. Il le résume ainsi, il dit en fait, ce qui était considéré comme un ordre, c'était simplement le déclin relatif du désordre dans les régions du monde qui étaient dirigées ou contrôlées par les États-Unis. Et il conclut en disant, aujourd'hui, ce n'est pas la fin de l'ordre international libéral, et ils en rient, et même de ce concept qu'ils considèrent complètement ridicule et has-been, hein, mais c'est l'intrusion de la géopolitique dans les régions du monde qui semblait préserver de la marte politique, mer de Chine, Ukraine, etc., qui est en train d'émerger et qui fait qu'il y a du désordre dans les régions où les États-Unis ont des bases militaires, etc. Mais c'est très intéressant parce que il y a vraiment là une décomposition très claire. Hein, à la fois, alors on voit que le parallèle, ce qui se passe sur la scène politique interne aux États-Unis, est en fait reflété sur la scène internationale. Et là, du coup, se pose la question de ce que cela signifie en matière de politique internationale. Son slogan « Make America Great Again », en fait, hein, c'est pas seulement de réimaginer le rôle des États-Unis dans le monde, mais c'est aussi de, en quelque sorte, refaire le monde pour qu'il soit « Great Again » pour les États-Unis. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense qu'il faut toujours garder cet effet miroir que j'essaye d'avancer depuis le début de mon introduction, parce qu'il y a vraiment cette double face, en fait. Et il n'y a pas seulement la perspective unilatérale américaine. Et donc, on comprend très vite qu'il y a une dimension profondément révisionniste, transformatrice. Ce n'est pas du tout de l'isolationnisme. Moi, je n'ai jamais cru aux thèses isolationnistes ou néo-isolationnistes. Hein. C'est bien plus complexe et compliqué que ça. Son objectif, et c'est très clair quand on va à la Maison-Blanche parler avec ses proches conseillers, c'est de remettre en cause le statu quo tel qu'il a toujours existé, et surtout de réviser, de remettre en question tout ce que Obama a pu faire en termes de coopération internationale et de leadership américain. La première question que Trump va demander à son équipe quand il y a un dossier sur la table, c'est comment est-ce que Obama a géré ça, qu'est-ce qu'il a fait, comment il l'a fait, avec qui il l'a fait, et à partir de là, il va faire tout le contraire. Donc c'est basically, c'est ça en fait. Et l'accord climat, le TPP, tout ça, on voit que c'est vraiment du
tricotage. Traduction, c'est bon.
Trop compliqué. De tout ce qu'a fait Obama. Et c'est véritablement ça hein, qui guide toutes ces décisions aujourd'hui en matière de politique intérieure et internationale. Alors, ce qui est très intéressant par rapport aux deux interventions précédentes, c'est qu'effectivement, le concept clé qui est en profonde transformation aujourd'hui, c'est celui d'alliance. Les alliances sont en train, et c'est pas nouveau, hein, mais Trump est un accélérateur en quelque sorte. C'est vraiment le disrupteur de ce système d'alliance tel qu'il a pu exister, mais qui a déjà commencé à se transformer sous l'administration Obama. On l'a compris, toutes les alliances dans lesquelles sont les États-Unis sont perçues aujourd'hui par Trump comme étant défavorables aux intérêts américains. Donc il faut tout réviser cela, quitte à tout remettre en question et quitte à même isoler les États-Unis sur la scène internationale ou à créer un vide de leadership. Mais comme on sait, les vides en géopolitique n'existent pas. Hein, c'est un concept faux puisqu'ils sont immédiatement remplis par d'autres triples acteurs ou d'autres puissances. Et effectivement, la Chine, on le voit, en a profité allègrement et continue à le faire. C'est intéressant de voir comme maintenant il y a un axe UE-Chine sur le climat qui essaye de confronter les États-Unis sur ce sujet. Et on va avoir cette espèce de dynamique d'alliance et contre-alliance qui va continuer à se faire au fur et à mesure que Trump prendra des décisions qui iront à l'encontre des valeurs qu'on avait l'habitude de défendre avec eux. L'autre exemple, c'est l'article 5 de l'OTAN, ce fameux article de défense collective. Là aussi, Trump a décidé d'être extrêmement ambigu, aussi une manière en fait de marchander avec ses alliés européens. Alors il a très furtivement dit qu'il recommit à l'article 5 dans une interview, mais il ne l'a pas dit quand il était à l'OTAN à Bruxelles, et ça a été aussi je dirais une humiliation pour son équipe de sécurité nationale qui avait travaillé son discours et qui nous avait dit la veille, vous verrez, c'est le premier message que Trump va délivrer auprès des alliés européens, c'est un réengagement personnel de la part de Trump à l'article 5, et il ne l'a pas fait. Alors son approche des alliés européens, c'est de demander plus, c'est pas nouveau non plus, mais en retour, comme le dit son conseiller à la sécurité nationale, McMaster, les États-Unis seront à nouveau des vrais amis. Alors, c'est étonnant, des vrais amis. Donc, ça veut dire que peut-être qu'ils n'avaient pas vraiment été des vrais amis, mais c'est pour vraiment comprendre le cadre idéologique de cette administration. On est dans le transactionnel. Là aussi, la formule de Charlie Kupchan mérite d'être citée. Il traite l'Allemagne et les autres alliés démocratiques comme des appartements. S'ils payent leur loyer à temps, ils sont bien. Sinon, ils doivent faire attention. Voilà. Et je pense que ça résume bien, effectivement, cette approche-là. C'est la première fois qu'on a parlé des ordres, l'ordre international, des ordres régionaux, qu'un président américain remet en question l'ordre européen et prend parti pour le Brexit, pour Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle française. Ça, c'est du jamais vu. C'est vraiment totalement nouveau. Et rien qu'en faisant ça, effectivement, il n'aide pas du tout l'Europe a resté unie. On voit qu'en tout cas, dans les premières semaines qui ont suivi l'élection de Trump, tout le monde est entré dans un concours de beauté en essayant de plaire à Washington, à Trump. On le voit avec Theresa May, qui est dans une espèce d'alignement prudent, si on peut qualifier sa démarche vis-à-vis de Trump, et d'autres pays ou puissances moyennes en Europe pour qui le lien avec Washington est absolument primordial, voire vital. Je pense aux pays de l'Europe centrale et de l'Est, hein, qui ont besoin notamment du hard power américain face à la menace russe et qui ne souhaitent absolument pas confronter ou en tout cas challenger l'administration Trump. Ce qui amène Merkel à dire qu'on ne peut plus compter sur les États-Unis. Dans cette phrase-là, moi, je trouve intéressant parce qu'elle a aussi voulu dire qu'on ne laissera pas les Européens s'entraîner dans la vision que porte Trump du monde. On ne partage pas sa vision, on ne partage pas son approche du climat, de l'immigration, de plein d'autres choses, mais il va falloir continuer, nous, Européens, et avec d'autres alliés, d'autres alliances dans le monde, à promouvoir les idées et les valeurs sur lesquelles on s'est construit. Au Moyen-Orient, alors on voit la catastrophe de ce qui se passe sous nos yeux, puisque là aussi, pour la première fois, un président américain va prendre parti pour l'Arabie Saoudite, notamment de manière très claire. Le ministre des Affaires étrangères allemand a dit qu'il faut lutter, nous, Européens, contre la Trumpisation du Moyen-Orient. Et si on pouvait effectivement résumer la conception de Trump, hein, des ordres régionaux en particulier, c'est l'art en fait de la confrontation. On va faire en sorte que l'équilibre des puissances se retrouve par le biais de la confrontation, en prenant parti pour telle et telle puissance et en espérant que ceux que soutiennent les États-Unis remportent la bataille. Mais on voit la dangerosité et les risques que cela entraîne. Alors justement, pour finir, le défi, je pense, le plus important, si Trump reste à la Maison-Blanche jusqu'au bout, c'est d'empêcher, ou en tout cas de manager, de gérer cette Trumpisation du monde, parce qu'elle est en train de se mettre en place sous nos yeux. Et je pense que la question qui se pose à nous en Europe, c'est quels sont les aspects de l'ordre international qu'on souhaite absolument préserver. Et sur quels autres aspects est-ce qu'on est prêt à faire des compromis ? Je pense que c'est cette question-là qui se pose à nous, une question qui n'est pas facile. Le climat, on a vu, on n'est absolument pas prêt à faire un compromis. Mais est-ce qu'on ne va pas devoir faire des compromis avec une administration Trump sur d'autres aspects ? Ce que l'on peut dire, c'est que c'est la fin de l'hypocrisie américaine. J'ai eu beaucoup de discussions intéressantes avec des conseillers de Trump qui disaient, vous savez, cet ordre libéral international, c'était de la pure hypocrisie. Et effectivement, il y avait beaucoup d'hypocrisie. Cet ordre international libéral a cautionné les ingérences militaires américaines, beaucoup d'autres choses qui n'ont pas toujours été positives. Et d'ailleurs, on voit que la situation qu'on a en Afghanistan, en Irak, en Syrie, c'est le résultat aussi de cette politique américaine qui a perdu en fait le contrôle des événements et qui n'a pas assez anticipé ce qu'allait arriver après le renversement de ces différents régimes politiques. Mais c'est la fin de l'hypocrisie américaine. Et en quelque sorte, alors les gens d'Obama vont vous dire que cette hypocrisie était plutôt confortable, était plutôt rassurante, parce qu'on était dans cette belle hypocrisie, qu'il fallait promouvoir la démocratie, on ne le faisait pas tout à fait, pas tout à fait bien, dans certaines partie du monde, mais au moins on était toujours considéré, comme ce qu'a dit Michel Fouché, comme le shérif, ce shérif qui pouvait être garant de l'ordre, de la sécurité dans certaines régions du monde plus ou moins turbulentes. Alors, est-ce qu'on revient au 19e siècle, je dirais, ces sphères d'influence qui sont en train de se construire, de se renforcer, que ce soit en Asie, au Moyen-Orient, peut-être, peut-être. Mais qu'est-ce que ça implique pour nous? On voit qu'il y a trois attitudes différentes, que ce soit en Europe ou dans le monde, face à l'administration américaine. Il y a d'abord, comme je l'ai dit, ce réflexe de l'alignement pour certaines puissances qui se sentent en insécurité et qui ont besoin du lien avec Washington. May, on voit, a un positionnement compliqué. On a d'ailleurs vu que le Royaume-Uni n'a pas signé ce texte franco-allemand-italien juste après la décision de Trump de se retirer de l'accord climat. Et pour moi, c'est extrêmement révélateur par rapport au positionnement de May par rapport au nôtre. L'autre attitude, c'est l'adaptation à ce nouveau leadership ou absence de leadership américain. On calcule les intérêts économiques, stratégiques qui nous lient aux États-Unis. Et puis surtout, on mise sur les contraintes de la démocratie américaine qui, on l'espère, finiront bien par prévaloir. Et puis enfin, il y a l'opposition frontale. C'est le cas notamment de la France et de l'Allemagne sur certains sujets sur lesquels on ne veut pas justement faire des compromis. Et peut-être que la solution intermédiaire, et on voit, elle est en train de se produire, notamment avec la Chine, c'est le soft balancing, d'essayer de confronter les États-Unis. Ce n'est pas la première fois, ça a été le cas autour de la guerre en Irak et de bien d'autres sujets, où on va utiliser les institutions multilatérales, d'autres alliances, d'autres accords régionaux, les accords commerciaux, pour essayer d'être un peu un contre-pouvoir, un challenger aux États-Unis. Donc je conclurai sur cette idée-là. Que pouvons-nous faire, nous, Européens, la France en particulier, face à ce chamboulement de l'ordre international qui est accéléré, encore une fois, par l'administration Trump? D'abord, il faut qu'on prenne le leadership sur certaines questions importantes. On le voit, le climat, la prolifération nucléaire, la coopération en matière commerciale, le développement durable, toutes ces questions-là, l'Europe peut jouer un rôle de leader très, très important. Et en même temps, on doit montrer qu'on est un partenaire indispensable pour les États-Unis. Moi, j'étais frappée par l'expression utilisée par Macron, qui parle des États-Unis comme l'allié structurel de la France. Et je pense qu'il a raison de dire ça. La question, c'est comment continuer à travailler avec les États-Unis, qui restent notre allié le plus proche. C'est toujours vers les États-Unis qu'on se tourne en en situation de crise. Comment aller au-delà du chamboulement politique à Washington et continuer à travailler sur les sujets sur lesquels on a toujours travaillé ensemble? C'est un défi, mais je pense que c'est absolument nécessaire de le faire. C'est ce qu'on essaie de faire, nous, ici en France, notamment sur les questions de contre-terrorisme dans le Sahel. On voit que les choses se compliquent ces derniers jours au Conseil de sécurité de l'ONU, mais c'est fondamental. Comment continuer malgré ces ruptures politiques, que ce soit le Brexit ou Trump? La deuxième, je dirais, posture qu'on peut adopter, c'est ce qu'a tenté Macron, mais ça n'a pas abouti sur le climat, c'est d'essayer d'exercer une certaine pression sur Washington. Nous, on est la cible de la pression et de l'art de la négociation de Trump. Je pense qu'il faut lui renvoyer ça. Être allié, c'est aussi essayer de dire à l'autre qu'il va parfois trop loin dans certaines décisions et qu'il faut qu'il arrête ou qu'il se rende compte des conséquences que ça pourrait avoir, non pas pour leur pays, parce que ça a des conséquences pour les États-Unis, mais pour le reste du monde. Dernière chose, on va essayer de développer ça, nous, au GMF, c'est de travailler davantage avec le Congrès, avec d'autres membres de l'administration Trump. En fait, c'est le sénateur américain John McCain qui a résumé ça de manière assez, je trouve, frappante. Il a dit aujourd'hui, il faut que vous envisagiez l'administration Trump comme un régime autoritaire. C'est-à-dire qu'il va falloir faire du multi-track diplomacy, pas travailler seulement avec Trump et Bannon, mais travailler avec les autres responsables au sein de l'administration, les figures républicaines plus traditionnelles, avec le Congrès, avec la société civile, avec le monde du business, avec le monde de la Silicon Valley, et créer des liens de dialogue, de coopération avec ces différents pans de la société et du monde politique américain. Et ça, je pense que effectivement, c'est compliqué de l'intégrer dans notre manière de travailler avec les Américains et Washington aujourd'hui, mais c'est véritablement le nouvel univers dans lequel on se trouve. Et finalement, dernier mot sur le moment Macron. Je pense qu'il y en a un, puisque les relations entre Washington, Berlin, on l'a vu, sont extrêmement compliquées. En plus, Merkel est au milieu de sa campagne et d'être de s'afficher de manière ferme contre Trump, c'est des points en plus pour elle. Et là, je pense que Macron, aussi parce qu'on est aujourd'hui l'allié le plus proche de Washington en matière de coopération militaire et de lutte contre le terrorisme, peut tenter de jouer un rôle, si c'est possible, d'intermédiaire, de pont, en fait, celui qui a mal assuré Londres au cours de ces dernières années, entre Washington et Berlin et Washington et le reste de l'Europe. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Alexandra. Cette lucidité, finalement, peut donner du courage pour contourner un régime autoritaire. C'est nouveau, ça. Ça va faire plaisir au professeur Wang. Je ne vais pas lui demander son appréciation. Est-ce que vous avez, Luigi ou professeur Wang ou Alexandra, une question à vous poser l'un à l'autre?
Moi, j'ai des questions pour Alexandra très rapides. Non, c'est très intéressant ce que j'ai écouté, soit de la part de M. Wang, soit de la part de vous. Mais la question que vous avez très bien dit, les choses comme elles sont maintenant, même l'hypocrisie qui a précédé tout ça. Mais je voudrais connaître votre opinion sur les conditions intérieures des États-Unis aujourd'hui. C'est-à-dire, tout ça est aussi dû à une difficulté structurelle de l'économie américaine d'être hégémonique et globale. C'est-à-dire, tout ça n'est pas la première déclaration que les moyens des États-Unis, vis-à-vis du fait qu'ils veulent continuer dans cette idée de la non-négociabilité de l'American way of life. C'est-à-dire que nous, en Europe, on a eu une réduction sensible de notre disponibilité économique. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est-à-dire que nous avons traversé une crise évidente et qui a qui a marqué la vie quotidienne des Européens, je ne dis pas seulement de la Grèce, mais des Italiens sans doute, des Français aussi, on le voit bien même, non politique, économique à l'intérieur. Donc les États-Unis refusent de faire tout ça. Et trouvent une solution qui est une solution qui est très dangereuse, c'est l'historien qui parle. Parce qu'en même temps, ils veulent extérioriser la difficulté économique sans la mettre en cause en eux-mêmes, et en laissant imaginer que le moyen militaire est la dernière solution possible, si jamais on n'est pas d'accord. En tout cas, on va passer dans une difficulté des relations. Donc, nous avons une grande puissance qui a traversé une crise qui n'est pas moindre de celle qu'on a passée en Europe, mais qui refuse de donner un différent ordre, qui est un ordre un peu à se rétrécir, si je peux dire, et qui, à ce moment, abandonne l'hypocrisie, extériorise sa difficulté. Et c'est là le danger que je retrouve. Je le trouve aussi même avec les relations avec la Chine.
Oui.
Parce que la Chine est le grand créancier des États-Unis. Donc, si vous voulez, la question est aussi à vous. Jusqu'à quel point la Chine va utiliser tout ça? Et jusqu'à quel point les Américains auront la possibilité de marchander tout ça? Parce qu'à un moment donné, peut-être, on devra donner... il faut demander aux Américains de réduire leur fameuse « American way of life ». Tandis que Trump a été élu dans la condition, au contraire, Pittsburgh plutôt que Paris, il a dit. Mais Pittsburgh, ça veut dire, nous, on continue à vivre au-dessous de nos moyens, ne nous emmerdez pas, si je peux dire, et sinon, on va voir.
Oui. Je suis en train de l'éteindre très, très, très brièvement. Oui, je suis absolument d'accord. Là, c'est en fait un exemple même ultra classique d'une ce qu'on appelle la stratégie de diversion. Quand on est en difficulté à l'intérieur, eh bien on va externaliser ça. Et c'est vrai qu'on l'a connu à plusieurs épisodes de l'histoire américaine, où le choix numéro un, ben, c'est la démonstration de force, montrer ses muscles à l'international. On l'a vu en Syrie, on l'a vu en Afghanistan, on le voit en Corée du Nord tous les jours, mais on le voit aussi dans la région du Golfe. Hein. Donc c'est comment en fait divertir en quelque sorte et dévier les inquiétudes et les préoccupations en interne à l'international. C'est un exercice très classique, mais très risqué, comme vous l'avez très, très justement dit, et surtout ça ne concorde pas du tout avec ce que veulent les Américains. Les Américains ont élu Trump justement pour qu'il s'occupe de leurs problèmes intérieurs et pas commencer à déployer la force militaire et créer éventuellement, et moi je pense que c'est déjà le cas, des nouvelles guerres un peu partout dans le monde. Et pour la Chine, alors moi je ferai un parallèle en fait entre ce que fait Trump par rapport à la Chine avec ce qu'a fait Bush Junior par rapport à l'Iran. Il a, en 2003, souvenez-vous, en renversant Saddam Hussein, il a libéré l'espace du Moyen-Orient à l'Iran, qui est ressorti comme le premier vainqueur de la guerre en Irak de 2003. Et si on fait un parallèle avec ce que fait Trump avec la Chine, il libère un espace énorme pour la Chine en retirant les États-Unis du TPP dans l'heure qui a suivi son investiture et en retirant les États-Unis de l'accord climat. Donc c'est extrêmement contradictoire, hein, et on retrouve ces contradictions tout le long de décisions politiques étrangères importante, mais c'est la réalité aujourd'hui. Le but de Trump, c'était de donner un coup de poing à la Chine et dire « vous allez voir ce que vous allez voir ». Et finalement, toutes les décisions qu'il prend libèrent encore plus d'espace pour la Chine. Et pareil pour la Russie. Il est arrivé, alors tous les présidents arrivent en disant « on va faire un 8-7, on va essayer de reconstruire une nouvelle relation avec la Russie ». Or, toutes les décisions qu'il prend, et je citerai un en particulier, je ne sais pas comment on dit, la fracturation hydraulique, c'est ça, le fracking. Le fracking, c'est directement un pied de nez à la Russie, puisque ça va faire baisser le prix du pétrole et contribuer à encore plus détériorer l'économie russe. Donc toutes les décisions qu'il prend pour le moment contredit en fait, ses objectifs le plus large qui s'étaient fixés pendant la campagne et au début de sa présidence.
Nous allons faire une pause bien, bien méritée. L'élément commun des trois interventions tout à fait remarquables de ce matin, c'est l'importance de la prise en compte dans le raisonnement sur l'actualité de la longue durée. Et je le dis d'autant plus facilement que cette maison où nous sommes a été créée par Fernand Braudel, qui est celui qui a installé cette méthode d'analyse de la longue durée. Vous savez que Braudel, en fait, voulait faire une thèse de géographie sur les frontières de la Lorraine, et l'historien qui lui servait de directeur de thèse a refusé en lui disant « Soyez sérieux, faites de l'histoire ». Donc nous avons donné à Luigi tout le sérieux qu'il faut. Mais voyez, on a vraiment besoin, quand on ne sait plus comprendre ce qui se passe, mais vraiment localement ou un événement, on ne comprend plus rien, on a tout intérêt à se dire au fond qu'est-ce qui s'est passé avant, quels étaient les épisodes précédents. Notre ami Wang a parlé de l'humiliation de la Chine qui était sortie du jeu et qui est rentrée dans le jeu récemment. Ça, c'est le mérite de Charles de Gaulle. Mais on pourrait même dire que c'est l'entrée dans l'OMC en 2001, un mois et demi après le 11 septembre. Ce calendrier n'a rien à voir. L'année 2001 est fondamentale pour décrire la nouvelle situation internationale. Donc toujours, toujours, la longue durée comme arrière-plan pour la compréhension à la fois du jeu des acteurs, de leur représentation. Donc nous faisons une pause jusqu'à 11h15. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Oui, 11h15. Et nous allons essayer dans la deuxième table ronde précisément de voir si la réaction de résistance qu'Alexandra appelle de ses voeux en Europe a du sens. Et surtout, nous allons essayer de réfléchir avec André Kourtounov sur actuellement la dégradation de l'ordre européen et dont la responsabilité n'est pas seulement là où on la situe habituellement. Merci beaucoup.